Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu assez exceptionnel qui est fermé au public le lundi, si j'ai bien compris. On se trouve dans les salles du musée d'Orsay où nous rencontrons Leila Gerbouet, qui est la commissaire d'exposition d'une exposition intitulée Degas, dessin, danse, dessin. Degas,
alors fermé,
danse.
Alors fermé le lundi, mais quand même ouvert à de nombreux groupes. Hein, on accueille les scolaires, les enfants peuvent comme ça visiter l'exposition dans de bonnes conditions.
D'accord, comme ces publics-là, vont d'orage et donc privilégiés, c'est fermé le lundi au grand public, mais il y a des accueils de groupes dans
scolaires.
Dans les murs du musée. Alors cette exposition consacrée à Degas, j'aimerais que Leila, vous nous expliquiez un petit peu quelle a été la genèse. Qu'est-ce qui a donné envie? Pourquoi le musée d'Orsay en particulier? Il y a forcément un peu une évidence, puisque Orsay est très attaché à cette période, on va dire, pré-impressionniste, impressionniste et post-impressionniste. Donc c'est dans le cœur de la cible,
si
on peut s'exprimer ainsi.
C'est un musée consacré aux arts de la seconde moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc l'exposition en fait commence dans les années 1890 avec la rencontre de Valéry et de Degas. Donc on est vraiment au cœur de la période embrassée par le musée d'Orsay, mais qui est une période qui est aussi plus large, puisque c'est aussi l'origine de la modernité. C'est une période qui ne cesse de résonner aujourd'hui. Donc le regard d'un artiste, d'un poète du XXe siècle sur un peintre plus du XIXe siècle, c'est quelque chose qui tient à cœur au musée d'Orsay. Ce dialogue entre les arts aussi, entre littérature et art plastique, cette interdisciplinarité, quelque chose vraiment de central au musée d'Orsay.
Alors justement, vous soulignez cet amour que Paul Valéry avait pour ce plasticien en particulier. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire? Comment ils se sont rencontrés? Nous dire deux mots sur cet aspect-là?
Oui, alors le musée d'Orsay voulait consacrer aussi un hommage à Degas pour le centenaire de la mort de Degas. Et Degas, un artiste vraiment central dans les collections du musée. On a une des plus grandes collections au monde de Degas. Et l'aborder par le regard de Paul Valéry, c'était quelque chose d'intéressant, qui nous paraissait intéressant. Et en effet, Paul Valéry a rencontré Degas dans les années 1890, alors qu'il avait 25 ans à peu près, et que Degas avait plus de 60 ans, donc Degas aurait largement pu être son père. Paul Valéry a eu la chance de le rencontrer par des amis communs. En fait, il était ami avec Eugène Rouard, qui était l'un des fils de Henri Rouard, l'un des meilleurs amis de Degas, de ses amis d'enfance qu'il avait rencontré durant ses études. Et Valéry a eu accès à l'atelier de Degas. Donc c'était vraiment plus qu'une relation, c'était un véritable ami. Grâce à ce cercle d'amis, il est entré même dans la famille, en quelque sorte, la famille spirituelle de Degas. Il fréquentait les mêmes artistes, Renoir, Mallarmé, et il a épousé une des nièces de Berthe Morisot, Janie Gobillard. Donc vraiment, il est entré dans le cercle des proches de Degas. Degas était très méfiant, âgé, de plus en plus, et il triait sur le volet les personnes.
C'est la question que j'allais vous poser.
Il se méfiait des littérateurs, notamment.
C'est un privilège, parce qu'il n'était pas forcément facile dans son relationnel avec.
Oui, c'est un privilège. Donc Valéry a eu la chance d'être introduit auprès de Degas, parce qu'il était en quelque sorte intronisé par des gens de confiance, on peut dire. Et puis aussi parce que c'était un artiste lui-même. Il pratiquait le dessin, pas en dessinateur, mais quand même, il avait une pratique sensible du dessin. C'était lui-même un créateur, donc il y a eu aussi des affinités spirituelles entre les deux personnages.
Et il s'intéressait justement aux écrits de Paul Valéry. Ça fait partie des choses qui ont peut-être donné envie d'ouvrir la porte pour Degas.
Je ne suis pas sûre, parce qu'à l'époque, Paul Valéry n'avait pas encore vraiment écrit son œuvre. Enfin, il débutait. Et il était même en pleine crise de création. C'est à cette époque qu'il a commencé ses cahiers. Donc ses cahiers, c'était quelque chose d'intime, en fait. Il y avait des cahiers sur lesquels il rédigeait tous les jours, en fait, régulièrement, ses idées, ses impressions de la journée, où il a d'ailleurs pris beaucoup de notes après ses entretiens avec Degas, notes qui lui ont servi pour la rédaction de Degas dans ce dessin. Et donc je ne pense pas que Degas se soit vraiment intéressé de près à la création de Valéry. Là, le lien était quand même plutôt inverse.
Dans un seul sens.
Avec la différence d'âge, Degas était quand même un artiste reconnu, âgé, vénérable en quelque sorte. Et puis il était quand même très centré sur son travail, peut-être parce que justement le temps fuyait, il voyait l'âge avancer et il était perfectionniste, il avait envie vraiment d'aller au bout de la perfection, et donc il ne cessait de travailler. Et Donc c'était plutôt l'observation du jeune écrivain, du poète, de l'artiste plasticien, peut-être plutôt
par le poète. Mais en tout cas, ça a été un sacré tremplin pour Paul Valéry, parce que justement s'approcher de quelqu'un qui avait une reconnaissance de son temps dans les arts plastiques, c'était forcément quelque chose de positif. Et moi, ce qui m'a donné envie, au-delà du fait que je puisse apprécier le travail de Degas, ce qui m'a donné un peu envie de venir voir cette exposition en particulier et cette approche, quelque part sous l'angle de la littérature, c'est que ça m'a fait penser aux lettres à un jeune poète de Rilke, qui a été un peu dans la même situation finalement, avec un jeune poète qui avait pris contact avec lui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait le sel et tout l'intérêt de son travail, et puis pour trouver finalement aussi une caution auprès d'un maître, pour être sûr qu'il était vraiment destiné à cette discipline de la poésie en l'occurrence.
Oui, alors, Valéry, il y a une petite différence par rapport au tremplin, c'est ce que vous dites, c'est que Valéry, en fait, a attendu très longtemps avant de publier Degas dans ce dessin. Donc, en fait, il avait envie d'écrire un texte sur Degas, mais Degas n'était pas du tout favorable. Et en fait, il a attendu finalement 40 ans avant d'écrire. Il a attendu d'avoir lui-même l'âge qu'avait Degas quand il l'a rencontré, en fait, pour écrire Degas dans ce dessin, donc dans les années 30, alors que lui-même était devenu un monument, était un académicien reconnu, qui avait beaucoup de commandes officielles. Et de manière très significative, dans l'édition de poche de son livre, qui est sorti très peu de temps après l'édition de luxe, il a fait barrer de l'Académie française sous son nom. Donc il a voulu, en quelque sorte, redevenir le jeune Paul Valéry, écrivant sur Degas, alors même qu'il était, lui, un artiste presque
officiel,
adoubé. Mais justement, ce livre qu'il a écrit très tardivement le replonge dans sa jeunesse, dans sa...
Très bien. Non, je vous en prie. Alors, dites-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que cette œuvre spécifique que Paul Valéry a voulu consacrer à Degas. La danse est une discipline, en tout cas une thématique vraiment centrale dans le travail de Degas, pas la seule. D'ailleurs, à la fin de l'exposition, on voit d'autres aspects, d'autres centres d'intérêt, je dirais, de Degas, notamment les courses. Il était assez fasciné par le milieu hippique. Mais là, on est quand même sur la danse et sur l'expression de la danse au travers du dessin.
Oui, alors Degas s'intéressait aussi beaucoup au portrait. Il y a aussi toute une partie sur le portrait, au corps en général, au corps en mouvement, aux vêtements également, aux vêtus, aux drapés. Enfin, c'est-à-dire, il avait d'abord une approche assez classique finalement de l'art, en voulant devenir lui-même peintre d'histoire à la suite des grands maîtres qu'il admirait. Il s'est essayé à la peinture d'histoire, l'a modernisée, l'a inscrite dans son temps, l'a personnalisée aussi en transformant un portrait de famille, le portrait de la famille Bellelli, donc sa famille en fait, sa tante, sa nièce, en transformant un portrait de famille donc en grand tableau d'histoire, et l'histoire contemporaine. Et après, en fait, c'est vrai que dans les années 70, la danse est vraiment devenue son centre de prédilection, parce que le milieu de la danse condensait un petit peu tout son intérêt pour le mouvement, pour le tissu, pour la lumière.
La danse vraiment en tant que discipline et pas uniquement en tant que...
Alors, il était abonné à l'opéra et il voyait beaucoup de spectacles, mais c'est vrai que dans ses peintures, on a l'impression qu'il s'intéresse presque plus au mouvement.
C'était un peu le sens de ma question.
Et aux coulisses qu'à la scène, parce qu'il y a quelques représentations de la scène, mais le spectacle est très rarement identifiable.
C'est ça.
Donc, il y a quelques ballets qui sont identifiables, mais vraiment très peu. Il y a beaucoup plus de scènes de répétition, beaucoup plus de scènes de coulisses. Et à la fin de sa vie, d'ailleurs, on a presque des visions, d'après mémoire, de ces danseuses qui deviennent quasiment des êtres fantastiques et déconnectés de toute réalité. Donc il y a vraiment un glissement vers une espèce de déréalisation de la danse. Et effectivement, ce qui l'intéressait le plus, c'était quand même les coulisses et les mouvements complètement improbables qu'il pouvait saisir de la danseuse au repos, mais n'étant jamais vraiment au repos, c'est-à-dire la danseuse se massant la cheville, ces petits mouvements prosaïques, mais qui sont aussi ce qui permet de saisir la vie, en fait, le vivant, cet interstice, justement, ce déséquilibre, ce côté imparfait.
Oui, il y a une dimension sociale dans le travail de Degas, à observer justement ces troupes, ces danseuses, se préparer.
Oui, il y a une dimension sociale, effectivement, puisqu'on voit vraiment l'univers de la danse tel qu'il est à l'époque, c'est-à-dire un univers très féminin, où les maîtres de danse étaient des hommes, d'anciens danseurs, mais de l'époque romantique précédente, et n'étaient plus danseurs. C'est vraiment un univers qui s'était énormément féminisé. C'est aussi un univers professionnel, donc composé de beaucoup de jeunes filles, de milieux défavorisés. Enfin, je comprends, c'est un peu un anachronisme, mais de milieux populaires qui faisaient vraiment ça pour gagner leur vie. Mais c'était aussi un milieu où se croisaient différentes couches sociales, donc c'était aussi intéressant de ce point de vue-là. Donc il y avait ce côté social, donc on voit notamment dans la petite danseuse de 14 ans, voilà, qui est très visible, cette adolescente voilà, exposée au regard de tous, et qui devait d'ailleurs arrondir ses fins de mois en posant comme modèle chez des artistes comme Degas. Donc. Mais il n'y a pas que ce côté social, il y a aussi le côté esthétique, peut-être parce que la danse permettait justement à Degas de réunir le côté classique, atemporel, des postures pas vraiment courantes, qui ne se croisent pas dans la rue, donc des postures qui permettent aussi de renouer avec finalement ces peintures d'histoire qu'il avait tant gardées dans sa jeunesse, et donc de relier ce côté classique avec le moderne, avec l'éclairage artificiel, avec les costumes des danseuses de son époque.
Il a sans doute d'ailleurs contribué à l'essor de la discipline d'une certaine manière, puisqu'il y a des représentations de danseuses, notamment les petites statuettes. Il y en a une qui est exposée dans le cadre de cette exposition précise, qui sont devenues presque des images d'Épinal de la représentation de la danse.
Oui, alors effectivement, alors ce n'est pas forcément les œuvres auxquelles Degas accordait le plus d'importance, parce qu'en fait, il distinguait différents types d'œuvres chez lui, et il y avait un certain nombre d'œuvres qu'il considérait comme des articles, c'est-à-dire des choses destinées à la vente, assez séduisantes, donc des danseuses saluant sur scène, bouquets, voilà, dans des pastels très séduisants. Mais lui accordait peut-être plus d'importance au côté expérimental et à des images qui ne sont pas toutes devenues des images d'Épinal, parce qu'elles peuvent encore étonner le regard par leur cadrage audacieux, par leur façon d'utiliser notamment le pastel de manière extrêmement original. Donc, il a créé des images devenues des images d'Épinal, mais qui ont quand même toujours ce côté, cette capacité à provoquer, à surprendre et à provoquer des réactions variées.
Tout à fait. Alors, dites-nous un petit peu plus précisément, qu'est-ce qu'on va rencontrer dans le parcours de cette exposition? Comment ça a été construit? Est-ce que c'est plutôt chronologique, thématique? Quels étaient les objectifs poursuivis?
Alors, juste par rapport à ce que vous disiez sur les danseuses et les images d'Épinal, et justement ce qu'on va rencontrer dans l'exposition, c'est justement des danseuses vues un peu à contre-courant ces images d'Épinal, c'est-à-dire des danseuses méduses, des danseuses crabes, tout un aspect de l'animalité de la danseuse qui intéressait beaucoup de gars, en fait, qui cherchaient donc cette ligne vivante dans la machine humaine, pour reprendre une expression d'ailleurs utilisée par Marais, le physiologiste qui s'intéressait beaucoup au mouvement du corps. Donc c'est aussi cet aspect, cette animalité dont parle Valéry et qui nous a beaucoup intéressés, parce qu'il permet justement de voir autrement ces tutus, cette importance du sol aussi, le sol qui est un véritable personnage dans les tableaux de Degas, le sol contre lequel la danseuse doit s'affronter, cette pesanteur dont elle doit se libérer et à laquelle elle est attachée également. Donc ça va être cet aspect de la danse aussi qu'on va découvrir avec des contrepoints permettant aussi de dépasser la danse de l'opéra de Paris qui a tant intéressé Degas, et de voir par exemple la Loi Fuller qui a un petit peu poussé à son paroxysme cette danse devenue mouvement des couleurs et explosion des couleurs dans l'espace, qui est aussi visible finalement.
Et un lien très fort aussi à la nature, puisqu'il y avait une dimension, elle voulait représenter le papillon, clairement, c'était une des choses qui la fascinait. Il y a eu un film absolument magnifique d'ailleurs qui est sorti avec Soko l'année dernière au cinéma.
Oui, exactement, donc vous voyez, on est vraiment en plein dans l'animalité, on passe de la méduse au crabe et on arrive au papillon. Et on a aussi l'aspect chrysalide avec ces adolescentes comme la jeune danseuse, la petite danseuse de 14 ans qui est vraiment l'adolescence dans sa chrysalide, avec toute cette ambiguïté de l'adolescence. Donc il y a cet aspect là alors on verra dans l'exposition aussi donc, un dialogue incessant entre le texte de Valéry qui est vraiment le guide du parcours, le guide des sections d'exposition et les œuvres de Degas, Et on découvrira aussi le livre original de Degas dans Essaim, qui est un livre très rare. On connaît le texte un peu plus, mais le livre en lui-même donc, a été tiré à très peu d'exemplaires.
305, si je me rappelle bien.
305 exemplaires, oui, en 1936-37, et édité par Ambroise Vollard, donc personnage majeur de l'histoire de l'art de la fin du 19e siècle, du début 20e, qui a été un peu l'artisan aussi de ce livre, avec des planches gravées d'après des dessins de Degas, qui sont exposées aussi dans le parcours. On verra Degas aussi en mouvement lui-même, puisque le parcours en fait passe de la ligne en deux dimensions à la ligne en trois dimensions sous forme de sculpture et carrément au mouvement avec l'évocation des appareils pré-cinématographiques et des premières bandes aussi de cinéma.
Et qu'il a d'ailleurs représenté quelque part avec ses séries de personnages en mouvement, où on avait l'impression presque de qu'il essayait de capter les différentes images successives des premiers appareils.
C'est vrai que Degas s'est beaucoup intéressé à la chronophotographie et à la décomposition du mouvement, et parfois au sein d'une même œuvre, des mêmes œuvres de danseuses, notamment, c'est particulièrement visible dans ses œuvres, ses dessins, ses peintures de danseuses. On a l'impression de voir la décomposition de la même danseuse dans ses phases successives, comme la danseuse montant l'escalier, par exemple, qui évoque de manière rétroactive, mais cette femme se nue descendant l'escalier de Marcel Duchamp, voilà, dans le sens inverse. Et donc on verra Degas lui-même en mouvement dans un film de Sacha Guitry. Sacha Guitry qui était lui-même collectionneur d'œuvres de Degas. D'ailleurs, il y a un nu dans l'exposition qui a appartenu à Sacha Guitry, un nu de Degas. Donc,
Très bien. Il y a quelques œuvres qui ne sont pas de Degas lui-même, qui sont présentées.
Alors notamment des œuvres d'Ingres et de Delacroix, deux grands artistes admirés par Degas et qu'il collectionnait, car Degas était un grand collectionneur de toutes sortes d'ailleurs. Il collectionnait autant les œuvres d'art que les textiles, que les estampes de toutes sortes. Donc on verra des œuvres de ces deux maîtres confrontés à Degas, qui dialoguent parfaitement avec eux et réunit en quelque sorte les aspects les meilleurs de l'œuvre de ces deux artistes.
C'est vraiment deux inspirateurs majeurs pour...
En fait, Degas puisait vraiment dans beaucoup d'œuvres. Il est comme dans l'art japonais, dans l'art de Daumier. Mais effectivement, Ingres était vraiment son maître. D'ailleurs, une des premières sections de l'exposition s'intitule « Ingres, les maîtres ». Faites des lignes, toujours des lignes, était vraiment cette injonction qui a suivi Degas toute sa vie et qui est citée dans Degas dans Essaim. Donc Ingres, mais effectivement aussi Delacroix par son dynamisme, par son intérêt pour le mouvement justement, qui est central dans l'art de Degas, beaucoup moins esthétique que celui de Ingres.
Et qui aimait lui aussi la danse, notamment la danse orientale, qu'il a pas mal représentée dans ses œuvres justement. Ça fait aussi le lien entre les deux personnages. On approche de la fin de cette interview. Donc on a un exemplaire vraiment qui est exposé ici de cet ouvrage. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les autres ? Ils appartiennent à des collections privées ?
Alors la bibliothèque du musée d'Orsay a acquis récemment l'exemplaire un des exemplaires. Il y en a un à la Bibliothèque nationale de France et quelques-uns dans des bibliothèques de par le monde, mais effectivement on n'a pas suivi la trace de chacun de ces exemplaires. En tout cas, ils sont très rares, très difficiles à trouver. Ils s'en vendent de temps en temps, on en voit en vente aux enchères encore, mais à l'issue de l'exposition en fait le musée d'Orsay a réédité avec Gallimard un fac-similé à défaut de l'original.
Donc c'est déjà très bien,
déjà avec toutes les planches gravées, donc qui est disponible à un prix 10 fois moins élevé que l'original. Donc,
c'est formidable
objet,
pour les passionnés.
Et qui permet aussi de retourner au texte, à la source du texte.
Formidable. Ça, c'est une information que je n'avais pas notée quand je suis venu faire la visite de cette exposition. Et je pense
avis aux bibliophiles.
C'est ça. Le public pourra se procurer finalement pour un prix relativement raisonnable, en tout cas très modique par rapport à ce qu'il a dû être au moment de l'édition originale.
Exactement.
Merci beaucoup, Leïla.
Merci à vous.
C'est une très belle visite et donc je vous invite à venir au musée d'Orsay pour découvrir cette exposition Degas
dans
dessin. C'est présenté jusqu'au
25 février.
25 février.
Encore toutes les vacances.
Il vous reste quelques belles semaines pour venir, comme vent d'orage, visiter cette exposition au musée d'Orsay. Merci beaucoup, Leïla.
Merci.
Au revoir.